Radio de la Paix.
Reportage.
Polly Charles et Serge Gbagbo, un point commun. Ces deux jeunes sont aujourd'hui deux influenceurs positifs de la jeunesse à Gagnoa, bien qu'ayant des parcours diamétralement opposés. Polly Charles est le chef de file des jeunes Ivoiriens qui ont envisagé la traversée de la Méditerranée en 2016 pour se rendre en Europe. Rentré au pays après moultes mésaventures, cet ex-migrant sensibilise aujourd'hui les potentiels candidats à la traversée sur les vérités qu'on leur cache. Quant à Serge Gbagbo, qui n'a aucun lien de parenté avec le leader politique du même patronyme, il a milité au sein de la jeunesse FPI de Gagnoa. Ensuite, Serge a porté la casquette de président de la jeunesse départementale de l'UNG de Stéphane Kipri avant de terminer, jusqu'à une date récente, comme président de la jeunesse communale de Gagnoa. Aujourd'hui, il a abandonné définitivement la politique pour l'entrepreneuriat, dont il se fait désormais un ardent porte-voix pour donner l'exemple aux jeunes. Reportage Abel César Cassin. Commençons par le premier portrait et les témoignages, celui de Serge Gbagbo, titulaire d'une licence en sciences économiques, connu à Gagnoa pour son engagement politique à la tête d'organisations de jeunesse qui exhorte aujourd'hui les jeunes à suivre d'autres voies. Avant de le rencontrer, nous avons arpenté pendant deux jours les rues de Gagnoa à son insu pour vérifier ce que l'on raconte sur lui. Premier témoignage, celui du président de la jeunesse de Gboko, village de la commune de Gagnoa. Wao Olivier, rencontré dans un restaurant de Garayo.
Babo Serge, en tout cas, toute la jeunesse, pourquoi on l'aime? Parce que quand tu es dans les difficultés, tu pleures, tu as des problèmes, Babo Serge, il répond toujours.
Aujourd'hui, il n'est plus à la tête de la jeunesse communale. Il s'est investi dans l'entrepreneuriat.
Bon, je pense bien que vraiment, il reste toujours le leader. Voilà, il reste toujours le leader. Et il pense bien que là où c'est aujourd'hui aussi, en tout cas, la jeunesse, tu viens lui. Parce que même si tu as très près quelque chose, tu peux aller voir Babo Serge, il est toujours prêt pour décanter la situation.
Que pensez-vous de sa reconversion?
Bon, il faut dire que vraiment, en tout cas, Babo Serge, depuis qu'il n'est plus à la tête vraiment de la jeunesse de Gagnoa, il faut dire que ça a pris un coup. Voilà, en cas de quoi ça a pris un coup.
Installé près d'une gare routière au centre-ville de Gagnoa, Imbolini Annie Lucie Christet semble avoir renoncé a passé des concours de la fonction publique depuis sa rencontre avec Serge Gbagbo.
Être fonctionnaire, mais lui, il nous encourage à entreprendre dans les affaires. Parce que lui-même, il est aussi dans les affaires. Voilà. Puis il passait, puis mon frère l'a interpellé. Et puis il a causé avec lui. Et c'est comme ça, il a commencé à causer. Puis moi, j'étais à côté. Je me suis dit, ah, mais quelqu'un, un grand frère qui vient. Et il vient nous sensibiliser. Donc, je vais me lancer ici dans l'entrepreneuriat pour voir dedans. Moi, aujourd'hui, je suis dans mon activité d'attiqué et je me retrouve mieux là. Je vends la boisson aussi à côté. Je suis titulaire d'un DUT en secrétariat.
Après deux rendez-vous manqués, nous avons pu enfin nous rendre à pied dans sa ferme, située à l'écart de la ville, au quartier dit Washington. Un quartier où, pour l'heure, bâtiments en construction et généreuses broussailles se succèdent. Ici, l'ex-président de la jeunesse communale de Gagnoa, Serge Gbagbo, élève des lapins, une vingtaine de porcs depuis deux ans, le tout sur un terrain de 5 hectares coupé par une mare artificielle, dans le cadre du projet Jeunes de valeur de Friedrich Ebert. Il nous parle de sa nouvelle expérience et de ses aspirations.
Il y a deux ans de cela, et donc nous étions à San Pedro lors d'un séminaire, et c'est comme ça que le formateur qui était là ce jour, Dr Gbédé, a dit quelque chose qui m'a tout de suite m'a interpellé. C'est une formation sur l'entrepreneuriat qui disait que avant d'entreprendre dans un secteur d'activité, il va falloir maîtriser forcément l'activité avant de se lancer. Et donc quand nous sommes sortis de là, c'est comme ça que je suis allé pour la formation à Bergerville. Et c'est après cette formation que j'ai décidé de moi-même venir prendre en main mon élevage. Avec Friedrich Ebert, c'était une formation qui amenait véritablement à faire comprendre la jeunesse qu'on pouvait être responsable d'une autre manière, parce que il y avait trop de manipulations. C'était pour lutter contre les manipulations des jeunes dans le secteur de la politique.
Donc, vous avez tourné le dos définitivement à la politique?
En tant que président des jeunes, nous avons apporté ce que nous pouvions, parce que quand nous arrivions à la tête de cette jeunesse, la jeunesse était pratiquement divisée. il y avait pratiquement deux tendances, la jeunesse du Nord, la jeunesse du Sud. Alors quand nous sommes arrivés, notre mission que nous avons véritablement mis en action, c'était de concilier ces deux jeunes-là pour qu'on puisse maintenant parler de développement.
On va continuer en parlant de votre élevage de lapins.
Après la formation, donc j'ai commencé d'abord à la maison. À la maison, j'ai commencé avec trois lapins, trois femelles et puis un mâle. Donc ça faisait quatre, voilà.
Et ici, maintenant, combien de lapins avez-vous?
Aujourd'hui, en ce moment, nous sommes autour de 300 lapins. Nous avons 300 lapins.
Comment arrivez-vous à les épouler?
D'abord, quand nous avons démarré, quand on a vu qu'on est en train de produire un peu plus, nous avons décidé, avec des amis, pour pouvoir nous mettre en société coopérative. Donc désormais, nous avons monté un document coopératif qui va nous permettre de pouvoir discuter avec eux désormais.
Et combien de jeunes figurent dans cette coopérative?
Et 19 jeunes. Chacun avait son mentor, avait un groupe avec lequel il fonctionnait. Nous tous, nous avons fait partie du groupe Friedrich Ebert, nous avons fait partie du projet JDV.
Donc tous ceux qui sont membres de cette coopérative sont désormais de la société civile.
Tous les jeunes JDV sont désormais membres de la société civile. JDV, c'est jeunes de valeur. Nous sommes tous des jeunes, chacun à sa valeur, mais c'était une manière de pouvoir mettre en lumière quelque chose en plus des autres. Par exemple, parmi nous, il y avait des jeunes qui étaient membres des partis politiques. En tout cas, ils sont peut-être encore membres de partis politiques, mais qui arrivaient à pouvoir dissuader leurs camarades quand il y avait des mouvements. Ou bien, en tout cas, à faire comprendre le message vrai à leurs camarades pour ne pas qu'il y ait des affrontements ou alors pour ne pas qu'ils arrivent à avoir des comportements qui n'étaient pas intéressants.
Vous avez été formé par Friedrich Ebert. Qu'est-ce que cet organisme allemand vous a apporté?
Effectivement, à la fin du projet, c'était pour lutter contre cette manipulation des jeunes. Donc à la fin, il fallait nous accompagner pour que chacun puisse développer son activité. Et donc à la fin de ce projet, ils nous ont accompagnés avec un financement qui nous a permis de pouvoir accroître nos activités. Pour les ports, effectivement, c'est comme je dis, c'est des activités qui existaient déjà. C'est des activités qui existaient, mais c'est la technicité que je n'avais pas moi. Et donc, quand je suis allé me faire former et que je suis revenu, c'est comme ça que j'ai commencé véritablement à pouvoir maîtriser l'activité et l'emmener à là où nous sommes en train de partir en ce moment.
Combien de ports aviez-vous et maintenant, combien en avez-vous?
Avant, je pourrais dire que j'en avais un peu plus. J'avais plus d'une trentaine de ports. Maintenant, je suis élevé parce que je peux emmener un port du premier jour jusqu'à 6 mois. À 100 kilos. Il n'y a pas d'accompagnement, ça il faut le dire. Et donc on le fait avec les moyens des bords. Donc c'est le financement qui est le problème, sinon la technicité est là, mais le financement qui joue contre nous.
Découragé?
Pas du tout, au contraire motivé parce que ça me fait un grand bien de savoir que nous sommes en train de véritablement avancer. Et par derrière le regard des personnes, en tout cas aujourd'hui, qui nous appellent pour nous encourager, pour nous motiver, ça nous fait encore de bien de savoir qu'il y a des jeunes qui viennent prendre conseil, il y a des jeunes qui viennent acheter des bêtes avec nous pour pouvoir s'installer. Donc nous comprenons que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sera forcément porteur demain. Voilà. C'est difficile, mais pas impossible. Alors nous continuons.
Charles Bolitien, un petit commerce de friperies et d'autres articles en face du carrefour du lycée 1 de Gagnoua. Le faire parler n'a pas été facile. C'est grâce à deux de ses amis que nous avons réussi à lui arracher quelques souvenirs. Pour que cela serve de conseil et de sensibilisation à tous les jeunes attirés par le mirage des avantages de l'immigration clandestine et la destination Europe. Voici l'essentiel de notre entretien avec Charles Boli.
Je suis parti effectivement, j'ai fait 1 an 9 mois et je suis revenu. Bon, maintenant j'essaie de m'accommoder à la vie parce que je n'ai pas baissé les bras. Donc je me débat comme un beau diable pour que je joigne les deux bouts.
Pourquoi vous êtes parti et pourquoi vous êtes revenu?
J'ai tenté la traversée, bon ça n'a pas marché, je suis revenu.
Justement, pour les auditeurs, pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette traversée?
Bon, ok. À dire juste, on a croisé des gens, ce qu'on appelle comme ça, des coxeurs. Ils sont appelés coxeurs parce que ce sont eux qui font la connexion entre nous et les soi-disant, quand je dis soi-disant, parce que c'est pas légal, des gens qui font traverser.
D'abord, le départ en Côte d'Ivoire, quel chemin vous avez pris?
Le départ en Côte d'Ivoire, j'ai pris mon vol. Le 6 janvier 2016, nous avons fait 5 heures, on a fait escale au Maroc. On a changé d'avion, Royal Air Maroc, on a pris Tunis Air et puis on est rentré à l'aéroport de Tunis. Nous sommes arrivés là-bas à 6h et quelques. Quand je suis arrivé en Tunisie, comme tout bon migrant, ou bien tout bon qui n'est pas chez lui, le monsieur a donné à tous les petits boulots. Hein.
Qu'est-ce que vous avez vu de positif, qu'est-ce que vous avez vu de négatif?
Peut-être que ce qui a été positif, c'est de croiser certaines personnes que je ne pouvais pas croiser comme ça. J'ai appris à connaître l'homme avec grand H. Parce que je dis cela parce que aujourd'hui, on vit en communauté ici en Côte d'Ivoire, en parfaite harmonie, c'est déjà très bon. On n'est pas aussi bien reçu, ça il faut le dire. Je parle de mes frères de la CEDEAO, on vit en parfaite intelligence, c'est pas eux. Mais je parle du pays hôte. Vraiment, c'était pas trop ça. Parce qu'il y avait trop de restrictions qui nous amenaient à savoir que nous n'étions même pas chez nous.
Et quelles étaient quelques-unes de ces restrictions?
Il y avait la carte de séjour à payer, la carte de résident et autres qui se payaient chaque fin du mois. Maintenant, quand tu n'arrives pas à payer, selon leur loi, on peut même t'expulser.
Et votre cas, comment vous y êtes pris pour payer?
Moi, mon cas, bon, je peux dire que, à dire vrai, parce que je sais que je suis écouté par des gens qui vont se reconnaître dans l'arrivée du 4 décembre 2017, dont j'étais le chef de file. D'autres vont se reconnaître déjà à travers cette radio à qui j'ai dit ah, merci. Il faut dire que notre arrivée ici a été arrangée par le gouvernement et nous sommes rentrés. Et de là, permettez-moi de dire déjà merci au gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour nous faire rentrer sains et saufs.
On vous a rapatrié?
Oui, bon, on nous a rapatrié. C'était un rapatriement volontaire, c'est ce qu'on dit, parce que j'ai apposé ma signature pour dire que je voulais rentrer et que je n'étais pas dans de bonnes conditions.
Est-ce que vous avez tenté effectivement, comme les gens le prétendent, est-ce que vous avez véritablement tenté de traverser la Méditerranée?
Bon, à dire vrai, j'ai tenté comme aussi tous ceux qui partaient là-bas dans le but de penser que l'Europe était un Eldorado. J'ai tenté aussi la traversée qui n'a pas été bonne. Et puis bon, c'est vraiment difficile à expliquer. Bon, nous sommes partis dans le but de traverser. On a quitté la Tunisie, on est passé la dernière ville de la Tunisie pour entrer en Libye. C'est bien Benghaden. Après Benghaden, nous sommes rentrés à Zouara, l'une des premières villes de la Libye qui est une ville, je peux dire, portuaire, où il y a de l'eau, voilà. Et c'est de là, maintenant, on a élu nos quartiers, si vous me permettez. Et puis, bon, on attendait maintenant de traverser. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en tout cas, le parcours a été très difficile. Ça a été très difficile parce que, voyez-vous, c'est un lieu que nous ne maîtrisions pas. Quand nous partions, c'était pas stable. Et nous sommes attelés on avait des gens qui nous mettaient en confiance. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et bon, quand on voyait des images de nos amis qui étaient déjà là-bas, qui nous motivaient pour dire, bon, allez, c'était facile. Allez, bon, vous pouvez faire comme nous. Allez, moi, je suis une femme, tu as vu, j'ai traversé. Tu peux en faire autant. Pourtant, tous les jours ne sont pas les mêmes. Et c'est ainsi que nous avons vraiment, on a eu chaud. Je suis allé, mais je ne suis pas monté dans une embarcation. Et puis, bon, on est revenu parce que, voyez-vous, il y avait, si je peux dire, des négociations entre les pays qui devaient nous accueillir. Donc c'était vraiment difficile. J'ose dire le nom ici parce que je ne peux pas dire le nom d'un pays quel que soit, mais qui avait refusé même de recevoir ceux qui allaient venir maintenant parce qu'ils étaient un peu du trou.
Comment vous avez fait pour survivre pendant tout ce temps puisque vous étiez loin de votre pays et je présume que l'argent que vous aviez au départ était épuisé?
On était obligé d'avoir des connexions via le Niger et autres pour faire passer l'argent et puis nous arriver. Moi, j'ai eu un peu plus de chance parce que dans la délégation, j'étais quelqu'un qui parlait au moins deux langues. Je parlais le français, voilà, et puis couramment l'anglais. Donc, ça faisait de moi un interlocuteur direct avec les autorités. Donc, automatiquement, j'étais dans de bonnes mains. Vous devinez au moins ce que je veux dire. Il y a beaucoup de choses que je ne payais pas. Vous savez, tous les gens de la CEDEAO se retrouvent là-bas. Donc, il y a des petits trafics, en griffe, si vous me permettez, qui permettaient de prendre de l'argent ici, donner à une connexion là-bas et l'autre rembourse ici à Abidjan. Ça se faisait. J'ai fait pratiquement 4 jours. J'étais quelque part où je ne voyais même pas ce qui se passait. Mais je pense bien que avec leur réaction, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Comme nous sommes au micro, pour ne pas frustrer les gens, je préfère... vous voyez un peu, non? T'es sûr, beaucoup de choses. C'est monnaie courante là-bas. Pas la prostitution, je peux dire même les violences basées sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qu'ils font là-bas, ce que les gens font là, c'est parce que pratiquement du viol. Pratiquement du viol, parce que quand... la jeune fille vient avec son homme pour tenter de traverser et le gars lui dit, bon, pour traverser facilement, voilà. Bon, à chaque fois on est assis, c'est la fille, on appelle, bon, viens, il y a un contrôle de temps en temps et puis elle revient. Vous devinez aisément qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Après, ce qui se passe, mais j'ai pas vécu ça moi particulièrement parce que je suis allé seul. D'autres sont allés avec des femmes enceintes, d'autres sont allés avec des enfants, ce qui était vraiment, vraiment très, très dangereux. Parce que je me rappelle bien que quand on devait revenir, on nous a dit comme ça que le gouvernement avait déjà apporté des avions pour qu'on rentre. Chose que je salue jusqu'à la grande hauteur parce que vraiment, ça nous a vraiment aidés. Voilà. Mais en même temps, on nous parlait des personnes vulnérables, des personnes qui ne pouvaient pas se défendre, telles que les femmes et les enfants. Arrivés à Tajoura, qui était une ville aussi de Libye, on a pris les enfants et les femmes enceintes pour rentrer. Vous voyez un peu ce qui s'est passé là-bas, c'était pas vivable. Maintenant, il y a beaucoup de choses, parce que quand d'autres sont pris, par exemple, en Tunisie, qu'ils manquent des papiers, on les prend quelquefois, on va les déposer à Samaka, qui est à cheval sur la Libye, l'Algérie. Oui, à la frontière, puis la Tunisie, je m'en abuse. On les dépose là-bas carrément. Et de là, c'est là que commencent maintenant les ventes des personnes. Moi, ça, je peux vous dire que ça existe. À Samaka, c'est les Nigérians qui m'écoutent au passage, je leur dis d'abord bonjour, mais Samaka existe, ils savent très bien. C'est invivable, Samaka. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Voilà. Nous sommes des personnes qu'on doit aider parce que nous avons encore les séquelles, vous voyez, un peu psychologiques, je peux dire, de ce que nous avons vécu, et c'est vraiment difficile. Vraiment, à travers le micro, je lance un appel à tous ceux qui voulaient s'aventurer à faire ce voyage, de ne même pas tenter parce que ça ne va pas les aider. En même temps, quand on parle au chien, il faut parler à l'os. Au gouvernement, faites tout pour que les enfants ne sortent pas. Quand ils rentrent aussi, ce qui leur revient de droit, il faut qu'on leur remette.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ce reportage a été réalisé et présenté par Abel César Cassin. Bonne suite de programme.
C'était Reportage.
Radio de la Paix.